Bonsoir et bienvenue pour cette cinquième séance, je crois, de l'histoire du cinéma sous influence documentaire. Et bienvenue à Jean-Louis Comolli. Je voudrais, avant qu'on entre dans le vif de notre affaire, vous indiquer deux rendez-vous en plus de celui-ci. D'abord, le prochain rendez-vous du cycle qui sera, ne vous y trompez pas, un vendredi. Donc le vendredi 25 avril, donc ne venez pas un lundi comme d'habitude, mais c'est bien le vendredi 25 avril, c'est ça, je ne me trompe pas, non ? Tout va bien. Deuxième rendez-vous très important, c'est une autre facette, l'autre facette de Jean-Louis Comolli, c'est-à-dire on va avoir la chance de découvrir le dernier pour le moment épisode du grand feuilleton sur les élections à Marseille, et cette fois-ci il s'appelle les clés de Marseille, et il sera présenté mardi 22 avril au Centre Pompidou en avant-première. Comme le centre est fermé, comme c'est une avant-première, vous avez besoin, si vous souhaitez y assister, d'un carton d'invitation. Et alors là, très clairement, parce que la fois d'avant, on ne s'était pas bien compris, je vous attendrai derrière la table et vous me donnerez le petit formulaire rempli avec vos coordonnées. Et comme ça, vous pourrez recevoir une invitation à cette avant-première. Donc là, nous allons découvrir deux fois le film et découvrir profondément, grâce aux commentaires éclairés, inspirés de Jean-Louis Comolli, Terre sans pain. Je ne reviendrai pas, parce que c'est une question qui est maintenant bien clarifiée, le fait qu'il ne faut pas chercher de frontières très sûres entre le documentaire et la fiction, surtout en l'occurrence, puisque comme l'écrit Jean-Louis dans le petit texte d'introduction, non seulement il y a une reconstruction là comme une fiction de ce film documentaire entre guillemets, mais de surcroît, de façon très ostensible, très délibérée plus précisément, Buñuel n'a pas hésité à noircir le tableau, et c'est sur ce noircir le tableau que je ferai, puisque c'est aussi un peu un rituel, une interrogation à laquelle tu as encore beaucoup de séances pour répondre, puisque les critères, les règles ne se trouvent pas dans un respect peut-être illusoire de la factualité, disons. La question serait, et bien sûr c'est un point sensible chez Jean-Louis Comolli, quelles sont les règles morales qui peuvent présider à une reconstruction, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, en fonction aussi de là où on se place, comme on disait dans un temps lointain. Et donc, en l'occurrence, qu'est-ce qui fait qu'il est légitime, et de quel point de vue il est légitime pour Buñuel de noircir le tableau, alors qu'on pourrait considérer que ce faisant, non seulement il reconstruit, mais il détourne en quelque sorte une partie de la réalité dont il doit rendre compte. Je pense que c'est là, dès lors qu'on s'affranchit de règles que personne ne respecte, mais apparemment strictes de reflet d'une réalité qu'on ne peut pas saisir comme ça, dès lors qu'on reconstruit, on a cette exigence à l'esprit toujours plus impérative. Et c'est donc sur ce questionnement qui va sans doute t'accompagner un certain temps, non seulement ici, mais au-delà, que je te laisse la parole.
Merci Roger, ça marche, oui. Je répondrai évidemment à cette question tout à loisir, puisque de dire qu'elle est l'axe même de ce que j'ai à vous proposer comme lecture de Terre sans pain. D'abord, dire ce film qui date de 1933 s'inscrit dans un moment historique particulier. D'abord, c'est un film politique, ce qui n'était pas le cas des films que j'ai montrés jusqu'à présent. Politique, je veux dire directement politique, de manière relativement explicite, des énoncés dans le film se réfèrent à ce qu'on pourrait appeler la sphère politique ou la dimension politique. Le contexte politique a une chance d'être relativement pertinent, et je vais en poser quelques jalons très rapidement, mon propos n'étant pas celui de faire l'histoire de ce film, laquelle histoire a été faite déjà et bien faite, notamment par Marcel Homs, qui était un ami et un confident de Buñuel. J'y reviendrai. Donc, 1933, c'est exactement deux années après l'instauration de la République espagnole 1931. Alors évidemment, quand une république arrive et met fin à une monarchie, c'est un tournant, c'est le moins qu'on puisse dire. Quelque chose se passe qui a un certain sens. Mais entre 31 et 33, cette république a commencé déjà à beaucoup décevoir. Voilà. Et pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du mouvement ouvrier espagnol, ou l'histoire de l'Espagne tout simplement, on est dans les prolégomènes de la guerre civile, hein, bien sûr, les années 30 se caractérisent, depuis l'instauration de la République, se caractérisent par une agitation sociale absolument exceptionnelle, dont on a retrouvé, non pas l'équivalent, mais quelque chose de proche dans ce qui s'est passé entre 67 et 69 aux États-Unis et en Europe. Bon, disons-le très simplement, le mouvement anarchiste espagnol est extrêmement puissant. C'est un fait historique qui a son importance. C'est le seul moment dans l'histoire où le mouvement anarchiste a connu cette puissance. Ça a été un mouvement de masse au sens le plus strict du terme. Le Parti communiste espagnol était un mouvement minoritaire, très minoritaire. Le fait que Buñuel s'en soit rapproché et probablement y ait adhéré à ce moment-là ne change pas la donne. La donne, c'est la toute-puissance du mouvement anarchiste à travers la Fédération anarchiste espagnole, la FAI, et à travers le grand syndicat, la CNT, qui existe toujours aujourd'hui, bien sûr, mais qui, à l'époque, mobilisait des millions de travailleurs. Et donc, dans ces premières années de la République, les anarchistes ont... une partie des anarchistes, la partie la plus active, si j'ose dire, a appliqué ce que l'un d'entre eux, un des plus connus, Francisco Ascaso, avait défini comme gymnastique révolutionnaire. Ce terme pourrait aujourd'hui encore nous faire penser, nous faire réfléchir. Gymnastique révolutionnaire, c'était quoi ? Ben, c'était de pousser partout où c'était possible, dans des petits villages, dans des communes, dans des petites villes, essentiellement les paysans et quelques ouvriers, à s'emparer du pouvoir localement, de manière ponctuelle. Alors bien sûr, ces prises de pouvoir ne duraient que quelques jours ou quelques semaines, dans le meilleur des cas, et beaucoup d'entre elles se terminaient par une répression féroce de la République, qui envoyait ses gardes civils pour mettre fin à ces épisodes insurrectionnels. Et c'est ce que Ascaso appelait gymnastique révolutionnaire. En d'autres temps, d'autres leaders disaient que voilà, il ne faut pas avoir peur de se révolter. Et donc la gymnastique, c'était au fond ça. C'était montrer au peuple que la révolte était évidemment légitime, bien sûr, mais qu'elle était aussi possible et praticable, et que prendre le pouvoir sans le garder, c'était un geste qui avait du sens. Bon, voilà. Alors je n'ai pas à me prononcer sur la validité de ces hypothèses et de ces pratiques. Néanmoins, elles sont très présentes et elles éclairent certainement en partie ce qui va se jouer pour Buñuel avec ce film. Je rappelle donc que Buñuel, trois ans plus tôt, a fait un film important qui s'appelle « L'âge d'or » et des films dans lesquels Salvador Dali, ami de Buñuel, a joué un rôle vraiment prépondérant. Un film produit par le vicomte de Noailles, si je ne me trompe. Et donc, les années qui ont suivi... ce film important qui a été mutilé, remonté, etc. Enfin, il y a se référer aux cinémathèques. Les années qui ont suivi ont vu une sorte de rupture entre Dali et Buñuel et aussi, d'une certaine manière, entre Buñuel et le mouvement surréaliste. Et Buñuel s'est rapproché des communistes, notamment des communistes espagnols, également des communistes français, puisque vous verrez au générique de Terre sans pain apparaître le nom de Pierre Unique, surréaliste et communiste, qui donc lui aussi s'est trouvé en rupture avec une grande partie du surréalisme, disons celui de Breton. Voilà. Donc on voit bien qu'au tournant des années 30, on est dans une sorte de carrefour historique très important. Une partie des intellectuels et des artistes qui s'étaient, déclarés et engagés dans le surréalisme, se sont dégagés du surréalisme pour se rapprocher des partis communistes, français et espagnols en l'occurrence. Alors donc, voilà, un moment extrêmement troublé. Une grande déception parce que les réformes que la République avait promises tardaient à venir, notamment la réforme agraire qui, dans l'Espagne des années 30, était véritablement un problème central. Les paysans pauvres, les grands domaines, aussi bien en Andalousie que dans le reste de l'Espagne. Et donc les paysans se révoltaient, voilà, se révoltaient pour avoir la terre, pour avoir leur terre. Tout ça ce contexte-là, historique, politique, idéologique, caractérise un moment donc, qui, pour moi, est un moment de bascule. Au fond, je le dirais comme ça, une partie de l'intelligentsia, artiste, intellectuel, se rapproche des partis communistes, encore et toujours staliniens à l'époque, hein, faut-il le préciser, et du coup se met en place, à travers diverses associations culturelles communistes en France, en Espagne, se met en place une sorte de doxa, hein, aller vers le peuple, prendre en compte les intérêts du peuple, se tourner vers le peuple, j'allais presque dire se pencher sur le peuple, quelque chose de cet ordre-là se met en place, à une échelle de masse. Le film que vous allez voir est tout le contraire de ça. Voir ou revoir, parce que j'espère que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu, est tout le contraire de ça. C'est un manifeste qui s'oppose à ce qu'on pourrait appeler la bonne conscience de gauche. Voilà. C'est en ce sens-là que ce film est subversif. L'été, en 1933, et il est toujours aujourd'hui. Et c'est ce que je vais tenter de, bon, de discuter, d'analyser, de commenter avec vous. Alors, ce qu'il faut... Bon, en règle générale, j'essaie autant que possible de n'utiliser que les éléments qui jouent dans le film pour analyser un film. Parce qu'on pourrait raconter l'histoire de Buñuel, l'histoire de l'Espagne, etc. pendant des heures, on n'aurait toujours pas parlé du film. Alors, j'essaie donc de me concentrer, de me centrer sur les systèmes d'écriture et les enjeux posés par un film. Ici, je ne peux pas tout à fait me livrer à cet exercice aussi simplement, parce que ben, nous connaissons au fond ce qu'on pourrait appeler le back-office, hein, pour utiliser un terme à la mode, du film. En 1966, la sœur de Buñuel, Conchita Buñuel, a trouvé dans une armoire des valises dans lesquelles il y avait des bobines de film. Elle a appelé son ami Marcel Homs et Marcel Homs a reconstitué les écarts du tournage de Terre sans pain, quelques doubles qui n'avaient pas été montés et a retrouvé donc toute une partie du matériel qui avait servi à faire le film, qui avait servi à monter le film. Je rappelle que c'est Buñuel qui a monté le film lui-même. Alors, on a donc découvert, au fond, le secret de fabrication de Terre sans pain. C'est pourquoi je le livre immédiatement, parce qu'il n'y a aucune raison de faire comme si on ne l'avait pas trouvé. Et donc, vous allez partir à la découverte de ce film avec un bagage pèse d'un certain poids. Et donc, je ne crains pas de doter d'entrée de jeu une partie des illusions ou de l'innocence que tout spectateur devrait avoir en abordant un film. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert? Qu'est-ce que Marcel Homs a découvert, qu'il a publié, dont il a fait ensuite une sorte d'assemblage, disons, et qu'il a montré ici et là? Et pour ce qui me concerne, moi, j'ai vu, c'est ce qu'on appelle les rushs de Terre sans pain, ce n'est pas tout à fait des rushs, j'ai vu ça en 1996 à Valence, chez Françoise Calvez. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert, par exemple, une chose très intéressante, ce qu'il y avait au début et à la fin des plans que Buñuel avait montés, c'est-à-dire ce qu'on appelle les claps, si vous voulez, et puis les chutes. Alors, on voit donc, ce qui n'est plus dans le film, bien sûr, on voit les Urdanos, les malheureux habitants des Urdes, on les voit attendre patiemment que l'assistant ou Buñuel leur fasse signe, et à ce moment-là, ils se mettent à marcher. Alors, dans le film, ne reste que la marche, il n'y a pas l'attente préalable. On voit bien sûr les claps qui ont précédé le moment où les figurants, si vous voulez, où les acteurs se mettent en mouvement. On voit donc que le film a été fabriqué selon des techniques, des modalités, bon, qui d'une part sont celles du cinéma depuis fort longtemps, et d'autre part ont été aussi utilisées par d'autres documentaristes, soit avant, soit au même moment, soit plus tard. C'est-à-dire le fait de mettre en scène, tout simplement. Je réponds déjà en partie à la remarque, à la question de Roger Rotman. Oui, mettre en scène. Alors, mettre en scène, c'est ce qu'on fait quand on fait un film documentaire, même si on croit qu'on ne le fait pas. Il est extrêmement, d'une immense naïveté de croire qu'en mettant sa caméra en face de quelqu'un ou de quelque chose, on ne transforme pas ce quelqu'un ou ce quelque chose. On en fait, évidemment, un objet qui va entrer dans un film ou un sujet qui va entrer dans un film. Et du coup, on est dans une relation cinématographique qui, par définition, n'est pas dans la nature, n'est pas dans la culture, mais est évidemment dans l'emprise que le cinéma exerce sur la nature et sur la culture. Donc, tout ce qui entre dans un film est cinématographique, y compris une réalité qui existerait sans le cinéma, mais qui, dès le moment où elle est filmée, n'existe plus sans cinéma, mais existe avec cinéma. Alors, ce que je dis là est d'une grande évidence et on ne devrait même pas avoir à se poser la question tellement c'est clair. Et pourtant, une résistance en chacun d'entre nous, y compris en moi-même, continue de... Nous nous disons qu'au fond, le monde est là et que s'il est là, il suffit de l'enregistrer sur une pellicule ou sur une bande vidéo pour le retrouver. C'est la théorie du reflet dont Roger a dit un mot. Évidemment, c'est faux. C'est-à-dire que je sens me lancer dans un cours théorique. Je peux tout simplement vous dire qu'entre ce que l'homme quelconque, vous, moi, perçoit de la réalité visible ou moins visible et ce que le cinéma en fait, il y a une marge considérable. Évidemment, la traduction cinématographique du monde n'est pas un reflet du monde. Voilà, il faut se dire ça toujours. Je rappelle que l'écran a deux dimensions et que le monde n'en a pas deux. Je rappelle que nous voyons en général avec deux yeux et que la caméra ne voit qu'avec un œil. Je rappelle que notre regard n'est pas cadré. Nous avons un champ visuel non cadré qui s'étend en gros d'un bout à l'autre des 180 degrés qui sont en face de nous. Et que la caméra, elle, n'a un regard que cadré. Il n'y a pas de cinéma sans cadre. Voilà. Donc, sans entrer plus avant dans ces considérations, on pourra y revenir, si vous voulez, après la projection. Cela suffit pour établir que la représentation cinématographique d'une réalité quelconque est une traduction de cette réalité dans un langage, pour dire les choses métaphoriquement, dans un système de signes, dans un système de référence qui est celui du cinéma et qui n'est plus celui... de l'homme quelconque. Voilà. Et donc, le monde qui se présente au cinéma est faussé par l'emprise que le cinéma exerce sur lui, par la prise que le cinéma effectue de ce fragment de réel qui s'offre à lui. Alors ça, c'est vrai pour tous les films, indépendamment donc de ce que Buñuel aura fait avec Terre sans pain. Je le dis parce que voilà, c'est un préalable au fond, il faut partir de là. Si nous allons au cinéma, ça n'est pas pour voir le monde tel qu'il est, c'est pour voir le monde tel qu'il est changé par le cinéma. Ça me paraît certain. Sinon, on n'a pas besoin d'aller au cinéma, on se promène dans la rue, comme Benjamin, comme Baudelaire, comme beaucoup d'autres, et on regarde le monde avec ses deux yeux, et on l'entend avec ses deux oreilles, et tout va bien. Si on va au cinéma, c'est pour le voir autrement, c'est pour le voir à travers ce miroir déformant, ce reflet déformé que fabrique le cinéma. Et ce reflet déformé nous destitue de notre place habituelle de sujet disposant de ses sens et occupant le monde, et il nous constitue à la place en ciné-spectateur. Le ciné-spectateur est un être à part, je vous le rappelle. C'est une dimension de chacun d'entre nous, mais c'est une dimension bien précise, puisque quand nous entrons dans une salle de cinéma, nous renonçons, nous abandonnons une partie de nos prérogatives. Nous renonçons à trois de nos sens sur les cinq, il n'en reste plus que deux, le regard et l'ouïe. Nous renonçons à nous mouvoir. Actuellement, vous êtes tous immobiles, sauf moi qui bouge devant vous. Et bientôt, je serai aussi immobile et ça ne bougera plus que sur l'écran et plus dans la salle. Nous renonçons à toutes sortes de choses qui, à parler, par exemple, quand le film, à parler, du moins à parler à voix haute et intelligible, comme je le fais maintenant, j'espère. Parce que c'est sur l'écran que ça parle, c'est pas dans la salle, voilà, et ainsi de suite. Donc le spectateur est au fond cet être qui consent à une existence minorée pendant le temps de la séance, à une certaine infirmité, disons les choses comme ça. Pourquoi ? Parce que précisément ça lui permet d'accéder à une autre dimension de la représentation à laquelle il n'accéderait pas s'il continuait à fonctionner comme dans la vie réelle. Je crois que tout ça est assez clair et que nous pouvons tous le comprendre. Donc nous venons chercher au cinéma des sensations, des procès de connaissances qui ne sont pas ceux que nous utilisons ou dans lesquels nous sommes pris dans la vie réelle ordinaire. Bien. Alors que s'est-il passé donc avec le tournage de Terre sans pain tel que les rushs, entre guillemets, l'ont révélé ? Alors d'abord qu'une série de plans qui ne figurent pas dans le film, eh ben, ont été écartés par Buñuel, c'est tout ce qu'on peut dire, ils n'ont pas été montés. Or, ces plans sont des plans qui tous mettent en mouvement des travelling en voiture, par exemple, des panoramiques sur des paysages, mettent en mouvement une certaine idée de la contemplation ou du regard sur paysage. Voilà. Cette idée-là, Buñuel l'a écartée de son film. Bon, voilà, un premier point. Un deuxième point, on voit dans ces rushs, dans ces doubles, dans ces écarts, on voit à quel point Buñuel a tenté, je relève le mot de Roger Rotman, de noircir le tableau. Vous verrez la séquence magnifique des chèvres sur une falaise escarpée, n'est-ce pas ? Alors, en gros, le commentaire que je cite de mémoire nous dit, voilà, en gros, les Urbanos n'ont rien à manger, hein, tout simplement, et ils attendent qu'une chèvre rate une marche dans la falaise et tombe pour pouvoir donc s'en emparer et manger de la viande. Voilà. Alors, ces chèvres, comme toutes les chèvres d'ailleurs, sont extrêmement retorses et résistent très fort à tomber. La paroi est verticale, mais la chèvre s'en tire. Et j'utilise le mot tirer là, pas tout à fait par hasard, puisque pour qu'elle tombe, il faut lui tirer dessus. Voilà. Et qui tire sur la chèvre ? Bah, Buñuel, bien sûr. Nous savons que Buñuel est un amateur d'armes à feu, et nous voyons dans ces écarts Élie Lothar, le caméraman du film, qui était par ailleurs un grand photographe et qui avait eu un projet de reportage photographique sur les Ourdès avant même le début du film. Élie Lothar donc a filmé tout simplement Buñuel, le revolver à la main, en train de tirer. Donc là, on pourrait dire que l'image atteste de manière irrécusable que quelqu'un a tiré, que ce quelqu'un était Buñuel. Alors, est-ce qu'il a touché la chèvre ou pas ? J'en sais rien, toujours est-il qu'une chèvre tombe. C'est celle qu'on voit tomber dans le film. Alors voilà, un deuxième élément qui emblématiquement nous dit que, bon, il fallait quand même voilà, accélérer un peu ou accentuer un peu l'insondable misère des Urdanos. Beaucoup d'autres signes de ce genre parsèment ces rushs ou ces écarts, mais pour moi le plus intéressant reste celui que j'ai cité pour commencer, le fait que les gens qui sont filmés, les habitants de ces villages, obéissent au doigt et à l'œil à un metteur en scène, à une mise en scène. Voilà. Il y a un très beau plan, vous le verrez, où des femmes portant des enfants traversent un bout de champ. Et on voit dans ces rushs les femmes toutes attendant le signal, immobiles. Et puis quand on leur dit « allez-y », elles y vont. Voilà. Donc ce film est tourné comme tous les films, d'une part, mais d'autre part, il est tourné comme tous les films avec cette mise supplémentaire de la part de Buñuel visant à noircir le tableau. Alors je reviendrai là-dessus après la projection, puisqu'on ne va pas tout dire avant, bien sûr. Qu'est-ce que je dois souligner encore ? Voilà, je dois souligner une chose très importante. J'ai beaucoup insisté les dernières séances sur le retard historique que le son a sur l'image. Voilà, ce film date de 1933, je l'ai dit. On a vu, la dernière fois ou la séance d'avant, je ne me souviens plus, L'homme d'Aran, 1934, Robert Flaherty. Le cinéma est sonore depuis 1927, 1928, 1929, c'est-à-dire 3, 4, 5 ans avant ces films. Et ces films ne sont pas accompagnés d'un son direct, et encore moins dans le cas de Terre sans peuple, puisqu'il n'y a même pas de son témoin, il n'y a même pas de son ambiance qu'on pouvait trouver un peu dans L'homme d'Aran et beaucoup dans Moi un noir que nous avons passé la dernière fois. Alors, donc, s'interroger une fois de plus, une fois encore, sur ce retard historique du son sur l'image. Pour le dire en quelques mots, tout le monde sait que les recherches sur l'enregistrement et la reproduction des sons ont été antérieures à la mise au point de la caméra des Frères Lumière, de presque un siècle. C'est énorme. Au moment où les Frères Lumière mettent au point la caméra Lumière, le cinématographe Lumière, eux-mêmes sont travaillés par l'idée de faire du cinéma sonore et parlant. Tous étaient travaillés par cette idée. Et quelque chose bloquait la possibilité de parvenir à cela, et ce qui bloquait, ce n'était pas l'enregistrement ni la reproduction du son. Je vous rappelle que Edison, avant de travailler au kinétoscope, a mis au point un procédé d'enregistrement et de reproduction sonore, où dans des parlophones, n'est-ce pas, on pouvait, en mettant une pièce dans une fente, se faire jouer un air de musique ou entendre la voix d'un acteur. Tout ça existait plusieurs années avant la naissance du cinéma. Donc le problème n'était pas lié à l'enregistrement et à la reproduction technique du son, mais à la synchronisation de la bande-son et de la bande-image. On pouvait enregistrer des sons, on pouvait enregistrer des images, on pouvait les projeter ensemble, mais elles n'étaient pas synchrones, ces deux bandes. Et cette absence de synchronisme ôtait, bien entendu, tout effet de réel, interdisait tout effet de réel. Hein, parce que si vous voyez une bouche qui s'ouvre et qui se ferme, qui articule des sons, et que vous n'entendez pas ces sons, que vous les entendez décalés, il y a un effet de déréalisation puissant que j'ai souligné à propos de Moyen Noir et qui reste toujours vrai. Alors, il était très difficile de synchroniser images et sons. Bien entendu, les recherches n'ont pas cessé pendant les premières années du cinéma, et à la fin des années 20, donc relativement tard, ces techniques de synchronisation ont été mises au point. Elles ont été mises au point où ? C'est là où la chose devient vraiment intéressante et politique, vous allez le voir, à Berlin, dans les studios de l'AUFA, et à Hollywood. Voilà. Les deux centres mondiaux de production de fiction, de production de films, de fiction, je dirais presque industrielle, avaient travaillé, en effet, et avaient réussi à obtenir cette synchronisation de la bande-image et de la bande-son. Ça voulait dire qu'on pouvait, les premiers films parlants et sonores, sonores et parlants en témoignent, on pouvait enregistrer et reproduire en synchrone du son avec de l'image en studio, parce que l'appareillage était extrêmement important, pesant, lourd, non manipulable, parce que les techniques étaient complexes et qu'il fallait des techniciens très formés, etc., etc. Tout ça faisait que, eh bien, les seules voix qui ont été enregistrées pendant des années et des années, c'était les voix des comédiens professionnels. Voilà. Il était impossible de faire du son en dehors des studios. L'exception qui confirme la règle, c'est évidemment Marcel Pagnol. Pour ceux d'entre vous qui connaissent le travail de Pagnol, vous savez que Pagnol, homme de théâtre, auteur de théâtre, a, de façon extraordinaire, tenu absolument à enregistrer les dialogues de ses films tirés de ses pièces de théâtre qu'il avait lui-même écrit, à les enregistrer dans la nature, c'est-à-dire en Provence, sous les oliviers, en plein air, et que pour ce faire, il avait été dans la nécessité de mettre au point ce qu'on appelait à l'époque un camion son, c'est-à-dire un camion énorme, qui transportait ce matériel d'enregistrement sur place, alors dans un mât, dans une propriété quelconque en Provence. Et Pagnol, des photos d'ailleurs très émouvantes le montrent, Pagnol ne dirige pas la scène, mais est dans son camion avec des écouteurs sur les oreilles et écoute la manière dont Ferdinandel, dont Rému, etc., joue la scène. Voilà. C'était ça pour Pagnol. Ce que le cinéma pouvait apporter et que le théâtre n'avait pas de la même manière. Bien. Alors, à l'exception des films de Pagnol, à l'exception d'un film de Jean Renoir qui s'appelle Tony, 1934, un an après Terre sans pain, le cinéma mondial est enfermé dans les studios pour faire du son. Voilà, précisément pour faire du son. Et l'aventure documentaire qui a commencé avec la naissance du cinéma se trouve évidemment bloqué, pénalisé par ce retard historique du son, puisque on ne tourne pas de documentaire en studio. Voilà, disons les choses comme ça. On ne tourne pas de documentaire avec des comédiens professionnels. On tourne des documentaires dans des lieux réels, si possible, dans des rues, dans des, je sais pas, des hôtels, de ce que vous voudrez. Et en principe, on n'utilise pas de comédiens, mais des gens réels comme nous tous. Voilà. Alors, c'était impossible. On pouvait les filmer, hein. Bon, il y a 1000 films, je ne sais pas, à propos de Nice, Jean Vigo, 1929, Berlin, Symphonie d'une grande ville, Walter Ruttmann, 1929, où on voit des passants, des gens de la ville, marcher, bouger, courir, danser, etc. L'homme et la caméra, que j'ai montré ici, 1929 aussi, de Dziga Vertov. Mais dans tous ces films, personne n'a la parole. Il n'y a pas de parole enregistrée, il n'y a pas de parole reproduite. Donc ces corps, disons, ces corps qui sont les corps de tout un chacun, hein, les corps non professionnels, non dressés professionnellement à venir travailler en studio, bah, ces corps-là bah, n'ont pas la parole. Voilà. Alors évidemment, ça a du sens. Enfin, ce que je dis là, j'espère vous en conviendrez. Ça veut dire qu'en gros, on peut filmer le peuple en tant que corps, mais on ne peut pas le filmer en tant que parole. Alors, évidemment, ça, ou alors il faut qu'il soit représenté par des comédiens. Alors oui, effectivement, bon, ben voilà, Henry Fonda peut jouer le rôle du fils du fermier dans Les raisins de la colère. Il le joue magnifiquement bien. Bon, le film est beaucoup plus tardif, bien sûr. Mais bon, voilà, des acteurs peuvent jouer le rôle d'eux. Mais nous sommes dans un principe de délégation et nous n'avons pas ce que le cinéma documentaire a amené et qui est véritablement très important, le fait que c'est la personne elle-même, sa parole, son corps, son identité, son histoire, sa biographie, tout ce que vous voudrez, sa subjectivité, disons-le comme ça, bah, qui sont filmés. Voilà. Quand je filme un comédien, si génial soit-il, bah, je filme un corps pour un personnage qui n'est pas ce corps-là. Je filme donc une délégation, une séparation entre le corps et le personnage. De la même manière, si je filme Laurence Olivier jouant Hamlet, ce qu'il va dire, c'est Shakespeare qui l'a écrit, c'est pas lui, et ainsi de suite. On voit bien que jusqu'au moment où on a pu enregistrer en synchrone son et image, jusqu'à ce moment-là, eh bien, nous avons, le cinéma lui-même, vécu sous le signe de la séparation. Le corps d'un côté, le personnage d'un autre, le corps de l'acteur d'un côté, le personnage d'un autre, le dialogue, c'est-à-dire la parole au fond de ce personnage d'un troisième côté, et donc les systèmes de représentation divisent au fond. Et l'unité, la synthèse se produit dans la tête du spectateur. Moi, spectateur, je peux croire que Hamlet parle comme Hamlet, même s'il est joué par Laurence Olivier, même si Shakespeare qui a écrit le texte. Mais c'est moi qui fabrique cette unité dans la représentation. Elle n'existe pas. Le meilleur exemple de ça, sans doute, est donné par le théâtre de marionnettes japonais que vous connaissez certainement, qui s'appelle le Bunraku, qui est absolument bouleversant, où on a d'un côté sur la scène les marionnettes, manipulés par des manipulateurs qui sont 4 ou 5 par marionnette, et de l'autre côté, c'est-à-dire tout à fait à droite dans la salle, les récitants, donc les corps, si j'ose dire, incarnés par des marionnettes, représentés par marionnettes, sont sur la scène et les voix viennent de derrière. Voilà. Et donc là, le principe de séparation est absolu et ça n'est que dans ma perception spectateur que je réassocie l'image et le son qui sont en réalité séparés, qui me sont donnés comme séparés. Donc ce principe de séparation, comprenons bien qu'il est constitutif du système des représentations. Et quand on va, en 1960, commencer à pouvoir enregistrer en extérieur, dans les rues, dans les savanes, où vous voudrez, les voix réelles des gens réels, et que ce ne sera plus un texte écrit par un autre, mais leur propre parole qui sera enregistrée, alors on mettra fin, d'une certaine manière, à ce principe de séparation qui avait gouverné les représentations jusqu'en 1960. Donc on pourra revenir là-dessus parce que c'est assez central, c'est une question assez importante. Ce que je veux souligner, c'est que, pour en revenir au film de Buñuel, c'est que l'absence de son direct ou l'absence de son d'ambiance a servi le propos de Buñuel, qui était de noircir le tableau. Parce que c'est plus facile de noircir le tableau quand il n'y a pas de son, que quand il y a du son. Voilà. Alors, comprenons bien ça. Évidemment, si je promène mon micro au milieu d'un village fut-il déshérité, il y a toutes sortes de bruits, les animaux font du bruit, les enfants font du bruit, les adultes font du bruit, tout ce que vous voudrez. Les bruits de la vie, les bruits existent, bien sûr. Alors, ils n'existent plus dans Terre sans pain. Donc, d'une certaine manière, la vie, au sens de l'aléatoire, du monde sonore, que personne ne gouverne vraiment. Si un chien aboie, voilà, il aboie. On sait bien que quand on tourne en studio, et souvent aussi d'ailleurs quand on tourne des fictions en extérieur, on déploie une police, hein, on appelle ça des assistants ou des stagiaires, mais on déploie une police pour faire arrêter les bruits alentour. Voilà, s'il y a un camion qui passe, on lui dit d'attendre. Le chien, on va chercher son propriétaire. Bon, ça m'est arrivé. Le tracteur du paysan qui travaille à 3 km de là, on court pour lui dire non, excusez-nous, là, si vous pouvez attendre encore une demi-heure, parce qu'on enregistre du son. Et donc, on voit bien comment, avec le son, ce qui arrive, le son pris comme ça, en direct, dans le monde réel, ce qui arrive, ce sont des effets de réel qui ne sont pas nécessairement désirés par le cinéaste. Voilà. Godard les a multipliés et les a effectivement désirés au point d'en rajouter parfois, mais la plupart des autres cinéastes, y compris aujourd'hui, font la police des sons. Cette police des sons consiste en effet à écarter tous les sons dits gênants ou perturbants ou qui viendraient casser la merveilleuse harmonie qu'on est censé installer entre un homme et une femme qui s'aiment. C'est sûr que si une sirène de pompiers éclate à ce moment-là, ça fait un drôle d'effet. Bien, alors il faut essayer de nettoyer le monde des sons parasites. Eh bien, avec le cinéma documentaire, ça n'arrive pas. Puisque nous, ce qui nous intéresse au contraire, c'est d'enregistrer cette présence réelle, y compris réelle et gênante et perturbante, du monde à travers ces sons. Alors le fait qu'il n'y ait pas de son, de ce point de vue-là, a énormément servi le propos de Buñuel. Je signale une remarque d'un écrivain catalan, Mercè Ibars, qui a écrit un très beau livre sur Terre sans pain, et qui écrit qu'elle a été... surprise par une phrase du commentaire du film. Vous allez l'entendre, cette phrase. En gros, le commentaire dit « Depuis que nous sommes ici, dans ce village des Hourdes, nous n'avons pas entendu une seule chanson. » Non, effectivement, ils n'ont pas entendu. Ils ne pouvaient pas l'entendre parce qu'il n'y avait pas de magnétophone pour l'enregistrer. Et Mercè dit « C'est quand même incroyable qu'en 1933, dans un village espagnol, personne ne chante. Voilà. » Elle ne pouvait pas croire à ça. Et en effet, on peut ne pas y croire. Donc, se manifeste bien là l'idée d'écarter du film ce qui pourrait être une trace de vie. Et vous allez voir, tout est écarté, évidemment, très, très fortement. Alors, avant de voir le film, je vous invite, c'est une invitation, je vous invite à bien écouter ce commentaire écrit en grande partie par Pierre Unique, mais auquel Buñuel a mis la main, à l'écouter, mais à l'écouter pour essayer de préciser, soyez attentifs, au calage et au décalage du commentaire par rapport à la bande image. Voilà. Alors, parfois, vous le verrez, ce commentaire colle, et colle de manière redondante à l'image. On pourrait presque dire que c'est caricatural. On voit, je ne sais pas, un âne et le commentaire nous dit un âne. Bon, voilà, comme si le spectateur n'était pas en mesure lui-même d'identifier l'animal en question. Donc il y a cet effet de redondance qui est extrêmement fréquent. Évidemment, cet effet de redondance n'est pas gratuit et j'essaierai après d'analyser pourquoi. Mais je vous invite à le relever. Et puis, relever également le temps de la narration. C'est un temps qui est au présent. Nous arrivons, nous venons, nous nous installons, nous rencontrons, dit le narrateur. Ce présent de narration pose toutes sortes de problèmes. Voilà, et nous en parlerons après, mais je voulais attirer votre attention sur le rôle important qu'il joue dans ce film. J'ajoute que la bande-son, donc, constituée d'une absence complète de son réel, néanmoins une musique constante du début à la fin, qui est une musique de Brahms, donc je crois que si je ne me trompe pas, c'est la 4e symphonie de Brahms, et la voix du narrateur presque constante elle aussi. Voilà, bonne projection. Cinq ans après le tournage et le montage du film, ce carton passe pour avoir été collé à la suite du film, après le mot fin néanmoins, par le producteur Pierre Brunberger, comme beaucoup d'autres, était choqué, disons-le, par la violence du film. Voilà, violence sans espoir. Alors évidemment, le carton nous délivre aujourd'hui un message qui devient ironiquement désespéré à son tour, puisqu'il nous annonce la victoire des forces populaires sur Franco, et nous savons tous que c'est le contraire qui s'est produit. Donc un optimisme déplacé qui tentait de faire passer la pilule amère que constitue ce film, que constituait ce film pour les spectateurs de l'époque. Et me semble-t-il, en tout cas dans les expériences que j'ai eues de le montrer à toutes sortes de gens, encore aujourd'hui. Alors, on va parler de cette amertume de la pilule. D'abord, je vous ai invité à être attentif aux présentes narrations qui gouvernent le commentaire du film. Hein. Nous arrivons, nous voyons, nous surprenons, ce « nous ». Que penser de ce « nous » Voilà, c'est la question. Alors, évidemment, tout spectateur, moi le premier, vise à travers ce « nous » l'équipe du film. Hein, bien sûr, ce « nous », c'est l'équipe qui tourne le film. Alors, nous arrivons, enfin, c'est l'équipe du film qui arrive quelque part, qui voit quelque chose, qui découvre quelque chose, etc. Mais la puissance sémantique du mot « nous » est englobante. Comment ne pas faire partie, nous aussi, spectateurs, de ce « nous » Je vous invite à vous poser la question. D'autant plus que, vous l'avez compris, le principe du film est celui, au fond, d'une visite guidée. Hein. Un narrateur, à la voix tout à fait remarquable, un narrateur nous fait parcourir l'itinéraire suivi par l'équipe. Et donc, nous devenons, nous devenons, au fond, les accompagnateurs, hein, les guidés de cette visite. Voilà. Alors, du coup, dans le « nous », il y a non seulement l'équipe qui nous représente, hein, mais il y a nous, spectateurs, qui suivons l'itinéraire de l'équipe et qui participons à cette découverte. Alors, évidemment, on pourrait s'arrêter là. Et on aurait déjà décrit quelque chose qui n'est pas sans intérêt, puisque ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le mode de narration construit et impliqué par ce film, il y a quelque chose qui vise le spectateur. Voilà. On pouvait tout à fait imaginer un commentaire disant à peu près les mêmes choses, mais sans procéder par le « nous », en disant « ils », par exemple. « Ils sont ceci, les Ourdanos sont cela », et à nombreuses reprises, le commentaire le dit aussi. Hein. Mais toujours revient le « nous ». Donc ce « nous », indiscutablement, vise un visiteur, désigne un visiteur. Et nous sommes, par la force des choses, 12 spectateurs, ces visiteurs, bien sûr, puisqu'il s'agit d'un film qui est montré à des spectateurs. Alors, première remarque. Deuxième remarque, la voix, le narrateur qui dit « nous », ne se contente pas, comme je le signalais avant le passage du film, ne se contente pas de décrire ce que nous voyons. Alors déjà, décrire ce que le spectateur voit, je le disais tout à l'heure, c'est mettre en œuvre un système de redondance dont on peut interroger la logique. Bon, voilà, Buñuel est un grand artiste, et il peut paraître étrange, en tout cas surprenant, qu'il invente, il mette au point et il développe un commentaire qui, d'une certaine façon, duplique ce qui est à l'image, hein, comme s'il fallait insister ou souligner ce que nous voyons et mettre des mots sur les images que nous voyons. Alors, cette redondance très pesante, d'une certaine manière, très, très constante dans le film, évidemment, a une fonction qui, une fois de plus, nous vise, nous spectateurs. Au fond, il s'agirait, me semble-t-il, de mettre fin, par le commentaire redondant, à ce qu'on pourrait qualifier d'ambiguïté fondamentale de l'image cinématographique. Voilà. Toute image cinématographique, j'ai eu l'occasion de le dire, je le redis, est d'une certaine manière ambiguë, dans la mesure où un plan, le plan d'un corps quelconque, prenons l'exemple de cette femme affectée d'un goitre, hein, et dont le commentaire nous dit l'âge, alors que nous voyons une femme âgée, hein, femme âgée et une femme usée aussi, disons-le, hein, très, très abîmée. Le commentaire nous dit cette femme a 32 ans. Bon, voilà. Alors, je vais détailler cet exemple. Donc, dire ce que nous voyons, c'est mettre fin à ce qui pourrait rester d'indécidable, de virtuel dans l'image. L'exemple des jeunes crétins est tout à fait saisissant, parce que nous voyons un gamin, d'une certaine manière, dont on nous dit d'abord que c'est un crétin, chose qui n'est pas écrite sur son front, et donc qui affecte, qui, comment dire, étiquette, hein, étiquette, je dirais presque policièrement, ce corps filmé, et du coup, nous le livre en pâture. Du coup, notre regard sur ce corps filmé, ce jeune homme, change quasiment du tout au tout en quelques secondes. Sans le commentaire, bah, nous verrions un jeune gars avec un chapeau un peu curieux, et puis ça serait pittoresque. Et jamais nous ne pourrions inférer de l'image qu'il s'agit là d'un débile mental ou d'un crétin, comme dit le film, utilisant une terminologie qui aujourd'hui fait sourire et qui était en usage encore à l'époque. Encore moins décider que ce gamin a, je ne sais plus, 28 ans, alors qu'il a l'air d'en avoir 15. Bon. Donc il faut bien, là, on voit bien la fonction de ce commentaire. Le commentaire ajoute quelque chose à l'image. Alors cet ajout que j'ai nommé redondance, bien sûr, nous dit ce que nous voyons, alors ça c'est la redondance, mais nous dit plus que ce que nous voyons. Et donc là, on est dans un autre système qui est celui de l'insistance, qui est celui du soulignement, je dirais. Et nous dire plus que ce que nous voyons, c'est évidemment mettre fin à la charge de promesses peut-être, de futur peut-être, d'attente peut-être, que toute image porte en elle. Voilà. Évidemment, on ne pourrait pas faire l'exercice aujourd'hui, mais ce serait intéressant de le faire, de passer ce film sans commentaire. Il changerait de couleur complètement, si j'ose dire. Il aurait une toute autre allure. On verrait exactement les mêmes images, la même misère, les mêmes corps, mais rien ne serait souligné. Et donc, quelque chose... Qu'est-ce qu'apporte le cinéma ? Le cinéma, un plan fixe, par exemple, le plan d'un corps, je le redis, par exemple, ces enfants qui sont filmés dans l'école avec des gros plans d'une force inouïe, hein, ces regards d'enfants sont absolument transperçants. Eh bien, qu'est-ce qu'apporte le cinéma ? Le fait que chaque plan est un fragment de réel, transformé, comme je l'ai dit, retraduit, comme je l'ai dit, par le cinéma, mais porteur d'un devenir, porteur de quelque chose. Le hors-champ, hein, n'est pas seulement de l'espace, c'est aussi de la durée, c'est aussi du temps. Ce qui s'est passé avant et ce qui peut se passer après, le plan porte ça. La vie du corps filmé n'est pas limité à l'intérieur du plan. On peut imaginer qu'il a un lendemain ou qu'il a eu un hier et qu'il va continuer sa vie d'une manière ou d'une autre. Donc, dans le plan cinématographique, je le dis d'une manière un peu synthétique pour ne pas entrer dans une analyse théorique trop poussée, il y a quelque chose de l'ordre d'une promesse. Chaque photogramme porte en lui la promesse du suivant. S'il n'y avait qu'un seul photogramme, il n'y aurait pas de film. Il faut bien qu'il y en ait plusieurs. Et il faut bien que chaque photogramme s'enchaîne au précédent et au suivant. Et donc, d'une certaine façon, se met en place une chaîne de photogrammes qui est toujours tournée vers le futur. Alors, bien sûr, elle vient du passé, c'est clair, mais elle est tournée vers le futur. Chaque photogramme, chaque plan nouveau dans un film, chaque moment nouveau d'un film peut être porteur d'un devenir qui n'est pas forcément nécessairement noir, qui peut être moins noir que ça. Voilà. Et beaucoup de films, évidemment, travaillent sur le fait que la linéarité de la boucle cinématographique peut induire, bien sûr, une attente, un espoir chez le spectateur. Voilà. L'idée que le film continue, c'est aussi l'idée que le spectacle continue, que quelque chose de plus fort, peut-être, que la mort tellement présente dans ce film, quelque chose de plus fort que la mort est à l'œuvre et qui va nous amener vers... le rêve du spectateur, le rêve idyllique du spectateur, un paradis de spectateur où les choses se dérouleraient merveilleusement bien. Donc, à elle seule, l'image n'est pas véritablement porteuse d'un destin fini. Elle porte quelque chose d'ouvert. L'image est ouverte. Un plan cinématographique est ouvert. Il est ouvert à son propre devenir, il est ouvert au temps qui circule en lui, et donc il porte quelque chose d'un futur ou d'une promesse de futur. Pour mettre fin à cette ouverture, il faut en effet des mots, Il faut que le langage s'empare de la chose et la rive, la bloque, la ferme. C'est tout le travail du commentaire tout au long du film, de fermer ce qui est ouvert, de refermer ce qui pourrait être ouvert. Alors, c'est donc un deuxième système. J'ai parlé de redondance. Le commentaire parle de ce que nous voyons, mais il ajoute à ce que nous voyons le fait que ce que nous voyons est pire que ce que nous voyons. Voilà. Il y a donc quelque chose d'un supplément, parlons de supplément, hein, une supplémentation qui vient affecter d'un coefficient extrêmement négatif, voire sinistre, les images que nous voyons. Alors bon, il y a 1000 exemples de ça, je vais en citer 2 ou 3. Malheureusement, le changement de bobine a escamoté pour nous un des moments les plus incroyables, c'est celui où les Ourdanos vont cueillir des feuilles d'arbousier dans les collines et où le commentaire nous dit mais alors ces endroits-là sont bourrés de vipères, n'est-ce pas? Et on voit à ce moment-là un Ourdanos le bras bandé et le commentaire nous dit qu'il a été piqué par une vipère et le commentaire ajoute, et ça on ne l'a pas entendu donc je me fais un plaisir de vous le dire, le commentaire ajoute: oui, la piqûre des vipères peut être mortelle, mais généralement, ce sont les soins que les Ourdanos se donnent eux-mêmes qui les conduisent à la mort. Voilà. Nous voyons bien la logique qui est à l'œuvre, là. Il est clair que le malheur ordinaire ne suffit pas, est insuffisant. Il faut quelque chose de plus. Voilà. Il faut un supplément. Hein. Il faut que la mort, là, soit directement liée au fait que le malheureux blessé, enfin piqué par la vipère, se soigne lui-même et du coup précipite sa fin. Voilà. Mais beaucoup d'autres exemples de cette logique, hein, qui est une logique du renversement, hein, de l'image. Comprenons bien, quand nous voyons ce Ourdanos, le bras bandé, il est vivant, il n'est pas mort. Nous ne savons pas qu'il se soigne lui-même, c'est pas écrit dans l'image. Bon, et on voit un type avec un bras bandé, a priori on comprend qu'il a été piqué par une vipère et puis voilà, il n'est pas condamné à mort de ce fait. Le film, l'image, la mise en place du visible par le film ne le condamne pas à mort. C'est évidemment le commentaire qui le fait. Bon, alors là déjà, je peux commencer à souligner quelque chose, disons un certain trouble, parce que nous accompagnons cette équipe qui filme les Ourdès. L'équipe dit nous et donc nous englobe dans son discours, nous qui sommes devenus des visiteurs, comme l'équipe l'est de ces villages et de leur misère extrême. Mais voilà que dans le nous, il y a aussi ce supplément. Il n'y a pas que la description de la chose, il y a aussi l'accentuation, l'aggravation, l'empirement, si j'ose dire, du mal. Alors là, du coup, notre place de visiteur devient une place de complice. C'est un peu, je veux dire, c'est le commentaire qu'il dit, ça n'est pas nous. Ça n'est pas ce que nous voyons qu'il dit, c'est le narrateur qu'il dit. Et donc le narrateur, au fond, nous entraîne dans une logique qui est celle de cette aggravation constante. Bon, je prends un exemple encore, il y en a 1000. Hein. Bon, le commentaire nous dit qu'il y a beaucoup d'oliviers dans cette zone. Et nous voyons en effet des arbres qui, pourquoi pas, sont des oliviers. Et nous voyons même les fleurs de ces oliviers, n'est-ce pas? Une image quand même, disons, d'effervescence, de la nature puissante qui produit ces fleurs. Et le commentaire ajoute que, bien entendu, ces fleurs sont, j'ai oublié exactement le détail, mais enfin, attaquées par quelques parasites et que la récolte n'aura pas lieu. Voilà un supplément qui n'est pas donné dans l'image. Voilà quelque chose que nous ne pouvons pas déduire extraire de ce qui nous est montré et qu'il faut bien que le commentaire nous l'apporte pour que nous puissions le penser. Alors voilà, c'est un autre exemple. Bon, évidemment, on a tous en tête la magnifique séquence des ruches, des abeilles et de l'âne. Voilà un exemple absolument majeur. La seule ressource pratiquement de ces malheureux, c'est d'entretenir des ruches pour les paysans, pour les propriétaires de la Alberca. Donc, et puis, manque de chance, si j'ose dire, en transportant ces ruches, les ânes trébuchent ou sont attachés de façon maladroite et les ruches se renversent et les ânes sont dévorés par les abeilles. Voilà. Donc, au fond, on pourrait, je ne vais pas entrer dans tous les détails, vous reverrez le film tranquillement, on pourrait dire que chaque fois que se présente une issue, une possibilité que quelque chose s'améliore ou change, le commentaire détruit littéralement cette possibilité et donc donne la version fatale, la version absolument négative, qui d'une certaine manière met fin à tout espoir. Alors je vais maintenant aller un petit peu plus loin encore. Nous rencontrons, dit le commentaire, une jeune fille qui souffre de la gorge. Bon, je ne cite pas mot à mot, mais ça revient à ça. Alors, nous voyons cette jeune fille, nous la voyons, bon, qui a l'air effectivement un peu affectée. Bien. Le commentaire dit, l'un d'entre nous, s'improvisant médecin, s'approche d'elle pour examiner son mal de gorge. Et nous voyons donc successivement un plan rapproché, puis un très gros plan de la bouche ouverte de cette jeune femme, de cette jeune fille, bon, en supposant qu'à l'intérieur, comme le dit le commentaire, quelque chose se voit de cette angine ou de ce mal qui l'a pris à la gorge. Alors, jusque-là, nous sommes dans la logique que j'ai décrite. Hein, c'est-à-dire, nous voyons quelque chose et le commentaire définit avec une certaine insistance cette chose comme pire que ce que nous voyons. Hein, voilà, parce que quand la jeune fille ouvre la bouche, aucun d'entre nous... ni médecin, ni pas médecin, n'est en mesure de voir quoi que ce soit qui ressemblerait à une inflammation terrible ou une... Bon, bien. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là, pourquoi ? Ben parce que le commentaire ajoute quelque chose. Et là, ce quelque chose va nous donner le sens du film. Le commentaire nous dit, quelques jours plus tard, donc on passe brusquement, on n'est plus au présent de narration, on passe dans quelque chose qui... représenterait un futur, hein, un futur de l'énonciation. Quelques jours plus tard, nous demandons des nouvelles de cette jeune malade et on nous dit qu'elle est morte. Alors voilà le jeu pervers que le film met en place. C'est-à-dire, nous accompagnons d'abord d'un bon pas tranquille ces visiteurs qui découvrent une réalité épouvantable, la misère, la mort, etc., etc., la pollution, la saleté, tout ce que vous voudrez. Et puis, peu à peu, au fur et à mesure que cette visite avance, nous comprenons que c'est encore pire que ce que nous voyons, parce que chaque fois que, comme je le disais, une porte s'ouvre, elle est immédiatement refermée par un commentaire qui la condamne d'une certaine manière. Les Ourdanos sont condamnés, non par l'image, mais par le texte. Mais voilà encore que on nous dit, de toute façon, il n'y a rien à faire. Voilà. Nous portons secours à cette jeune malade en vain. 3 jours plus tard, elle était morte. Alors voilà le point nodal. C'est-à-dire que nous sommes invités par ce commentaire à entrer en compassion, si j'ose dire, avec ces malheureux, ces misérables, etc., etc. Nous sommes invités par le commentaire à constater le sort terrible qui est le leur. Et le commentaire insiste sur le caractère irrémédiable et terrible de ce sort des Ourdanos. Et au moment même où chaque spectateur est un abîme, un gouffre de générosité. Chaque spectateur désire absolument que tout aille mieux. Chaque spectateur est là, au cinéma notamment, pour que les choses cinématographiquement soient meilleures que dans la vie réelle vécue, où elles sont souvent horribles, n'est-ce pas ? Bien. Alors, et voilà que cet élan, si je puis dire, cet élan de sympathie, ou cet élan de compassion, ou cet élan même peut-être de charité chrétienne, pourquoi pas, qui peut animer chacun d'entre nous et imaginairement nous mettre du côté des souffrants et nous faire imaginer que nous pourrions leur porter secours. Et je parle là un langage qui n'était même pas utilisé à l'époque. les missions humanitaires, etc. Tout ça n'était pas nommé comme cela. Hein, on en était encore à la charité chrétienne, bien sûr. Voilà. Donc je parle un langage là qui doit nous parler aujourd'hui, puisque nous sommes dans cette idéologie porter assistance, porter secours, entrer en compassion avec les malheureux, les faibles, les misérables, etc. etc. Eh bien, une fois que le narrateur nous a entraînés à ses côtés vers cet élan de solidarité ou de compassion ou de partage d'une souffrance, de désir peut-être d'y porter remède, comme le personnage du film qui va soigner cette jeune fille, le narrateur, que moi j'appelle le maître, hein, le maître nous dit c'est trop tard, de toute façon il n'y avait rien à faire. Voilà. Alors c'est ça la violence du film. Je crois que c'est ça que le film nous dit à nous aujourd'hui, mais qu'il disait déjà d'ailleurs aux spectateurs de l'époque, puisqu'il a été très mal reçu, ce film a toujours été très mal reçu, sauf si on le considère comme un objet de musée, auquel cas plus personne n'a rien à en faire. Mais ça n'est pas un objet de musée, c'est un film qui s'adresse aux spectateurs. Je réponds maintenant à la question que Roger m'a posée tout à l'heure, au début. Évidemment, l'objet du film, c'est le spectateur, c'est pas les Bourdanos. Il s'agit de mettre fin à l'illusion que le spectateur porte avec lui, le spectateur de cinéma porte avec lui, que le monde va aller bien. Il faut en finir avec cette illusion, nous dit Buñuel. Il faut en finir définitivement avec les gestes de compassion ou de charité qui ne servent à rien. Bon, et trois petits points de suspension et on sous-entend. Oui, faites la révolution, voilà, changez le monde, ça ira, ça sera peut-être différent. Je ne sais pas si ça ira mieux, mais ça sera peut-être différent. C'est la morale du film. Alors évidemment, quand un film, quand un travail de cinéaste est tourné vers le spectateur, contre le spectateur, pour poser question au spectateur, d'une certaine façon pour l'inciter à se révolter, pour l'inciter à refuser la porte facile, hein, de la solidarité, de la compassion, de la charité, etc., etc., à refuser d'entrer dans cette idéologie où il y a toujours un bon côté et un mauvais côté, n'est-ce pas ? Alors oui, en effet, à ce moment-là, tous les coups sont permis, si j'ose dire, puisque, d'une certaine manière, oui, il faut noircir le tableau pour arriver à mettre le spectateur dans cette situation où, non seulement il va être touché par la noirceur du tableau, mais au bout de cette noirceur, il va tomber dans un trou parce qu'il va comprendre que ça ne sert à rien de s'émouvoir pour cette noirceur. Il faudrait faire autre chose. Voilà. Alors, ce discours-là, me semble-t-il, est articulé d'un bout à l'autre du film, avec une certaine ironie par Buñuel. On a souri ou on a ri à quelques moments. Je pense évidemment à la scène de l'arrachage des têtes de coq. Bon, qui est quand même une des séquences les plus incroyables qu'on ait jamais filmées. Et d'ailleurs, dans les rushs, y a des plans que Buñuel n'a pas montés, des très gros plans où on voit le cou de ce coq sans tête. Et c'est un spectacle assez, assez effrayant. Donc il a quand même mesuré là, ses effets, même si cette mesure est une démesure. Et si cette démesure nous fait violence, voilà. Mais là, le commentaire prend la distance qui nous met de son côté, n'est-ce pas ? C'est une habile façon de nous mettre dans sa poche que de dire, voilà, sans doute que ce rituel a quelque sens sexuel que nous n'expliquerons pas tout de suite. Bon, très bien, voilà qui est dit. Et voilà le spectateur qui sourit et qui se dit, tiens, on a affaire à des gens qui sont, qui prennent de la distance, qui... Mais beaucoup d'autres, vous l'avez remarqué, beaucoup d'autres éléments du film jouent sur... Bon, je pense notamment à cette phrase toute bête. Le monastère, l'église n'est plus habitée que par un vieux curé qui vit là au milieu de ses servantes. Et nous voyons deux filles qui sont là. Bon, c'est tout Buñuel est condensé en deux plans, si vous voulez, et en trois mots. Bon, quelque chose là d'un imaginaire plus ou moins désastreux, mais néanmoins assez comique, se met en place. Bon, mais à de très nombreuses reprises, nous avons ce biais donné par le commentaire qui, d'une certaine manière, parle à notre place à ce moment-là. Hein? ne parle plus à sa place, mais parle à notre place pour nous dire, voilà, il y a des sous-entendus, il y a des choses qu'il faut interroger. Bon, je pense par exemple aux médailles portées par le bébé, dont le commentaire nous dit que bien qu'elles soient chrétiennes, elles font songer aux amulettes portées par les peuples africains, etc. etc. Donc une série de signes comme ça parsème le film et donc devrait nous mettre sur la piste d'une certaine malice, voire d'une certaine perversité. Bon, j'apprendrai à personne qu'avec Buñuel, nous sommes dans le domaine de la perversité, et peut-être même chez Buñuel, nous sommes avec le plus pervers de tous les cinéastes. Ben, cette perversité n'est pas quelque chose qui se déroule sur l'écran. Pour que perversité il y ait, ou pour que malice il y ait, ou pour que ruse il y ait, ben, c'est évidemment avec le spectateur que ça se passe, par définition. Ce n'est pas entre les personnages que ça se passe, c'est entre ce qui est sur l'écran et le spectateur dans la salle. Alors voilà, donc là, quelque chose s'est mis en place, un piège, moi j'appelle ça un piège, s'est mis en place, qui nous entraîne, qui nous fait accompagner ce discours du maître de bout en bout, et jusqu'au point où ce discours du maître dit, tu as vu ce que je t'ai montré, ça t'a fait du mal, ça t'a fait souffrir, tu es ému par tout ça. Eh bien, ça n'est rien, ça ne sert à rien. Voilà. Alors évidemment, il y a quelque chose d'un désespoir actif qui n'est pas celui qui se déroulerait exclusivement d'un côté, du côté de l'écran, un désespoir actif auquel le spectateur est invité, hein, dans la logique duquel le spectateur est invité à entrer. Et je crois que c'est une chose difficile pour les spectateurs de cinéma. Le spectateur de cinéma, je le répète, est un être minoré, n'est-ce pas, qui a consenti pendant la séance à redevenir d'une certaine manière un enfant, hein, à s'infantiliser entre guillemets. C'est pour ça qu'il y a tellement de films qui jouent là-dessus, bien sûr. Bon, disons-le d'un mot, dans la salle de cinéma, ce qui est sur l'écran est plus grand que moi. Donc je suis à la place du petit qui regarde les grands. Donc je suis dans une place d'enfant. Par ailleurs, cette non-mobilité, cette difficulté, enfin cette impossibilité de parler, tout ça renvoie à l'enfant qui n'a pas encore accès à la parole et peu au mouvement. Et donc, dans ce spectateur qui retrouve quelque chose de l'enfant qu'il a été et quelque chose qu'il ne sait plus de l'enfant qu'il a été, il y a sans doute, et je crois que le cinéma est fait pour ça, il y a sans doute l'idée de l'accomplissement de quelque chose qui va nous transporter ailleurs, dans un monde plus beau, dans un destin plus favorable, dans un rêve. Hein. Voilà. On peut dire que ce film d'un ex-surréaliste est l'anti-rêve par excellence, c'est-à-dire le cauchemar absolu, voilà, d'un bout à l'autre. Alors évidemment, amener des spectateurs dans une salle de cinéma pour leur offrir un cauchemar logique aussi féroce, c'est prendre à rebours le spectateur et c'est aussi prendre à rebours le cinéma. Cette promesse dont je parlais tout à l'heure, dont je crois que l'invention du cinéma est porteuse et que, au fond, le mécanisme profond de chaque film est également porteur, eh bien, est là terriblement déçu. Elle est détruite, littéralement. Je crois qu'aucun d'entre nous ne serait en mesure de citer un moment du film où quelque chose d'un espoir lui serait apparu. C'est quand même assez rare quand on va voir un film. On peut voir de très mauvais films, des films épouvantables, mais il y a toujours une lueur d'espoir quelque part. Et oui, ben là, il n'y en a pas. Et je ne peux pas ne pas citer ce plan incroyable de la vieille. Là aussi, le son n'est pas là, hein, qui bat son grelot et qui annonce que pour rester éveillé, c'est-à-dire pour rester en vie, il ne faut pas cesser de penser à la mort. Voilà. Alors, c'est en gros la leçon qui est donnée au spectateur. C'est une leçon irrecevable. C'est ça qui fait la beauté de ce film. Voilà. Si vous avez des questions, si je peux y répondre, évidemment, je serai très heureux de le faire. Alors attendez, on va vous donner un micro parce que sinon, comme c'est enregistré.
Pourquoi c'est une leçon irrecevable ?
Alors voilà.
Attends, vous êtes. Alors vous êtes où d'abord ?
je le redis.
faute de l'avoir bien dit juste avant, je le redis volontiers, parce que je crois que le cinéma a été inventé. Hein, et pourquoi celle-là ne vous convient pas? Et pourtant. Non, mais écoutez, que les spectateurs de cinéma soient également des sujets de l'idéologie dominante, personne n'en doute, bien sûr. Que les spectateurs de cinéma soient des êtres aliénés, comme nous le sommes tous, par ce qui se passe autour de nous, à tout niveau, le marché, la consommation, les médias, etc., personne n'en doute. Or, tout cet énorme bagage, cette espèce de poids monstrueux qui se déverse sur nous constamment, ne cesse de nous dire qu'il y a de l'espoir. La planète est foutue, mais il y a de l'espoir. Les émeutes de la faim, mais il y a de l'espoir. L'ONU va s'en occuper. La France va faire quelque chose. Ceux qui ont affamé des millions et des millions d'humains vont se porter à leur secours. On se croirait dans le scénario de Terre sans pain, vous voyez. Alors, moi, je veux bien que ce ne soit pas désespérant ou que ce soit recevable. Non, ce n'est pas recevable. Alors, peut-être que chacun d'entre nous, et c'est ce que j'espère, c'est en ce sens que je crois au cinéma, chacun d'entre nous porte en lui un dissident ou un rebelle qui va prendre peut-être, j'espère, le contre-pied de cette leçon majeure et massive qui est constamment, dont nous sommes constamment assiégés. Mais ce geste-là restera toujours celui de l'extrême pointe de la minorité. Et il ne faut pas s'en plaindre, c'est très bien comme ça. Mais globalement, c'est irrecevable. J'ai montré ce film constamment, mais je l'ai montré, je me souviens d'une séance hallucinante, je l'ai montré à la FEMIS, aux étudiants en deuxième année de cinéma de la FEMIS. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle. Ça a été très, très dur. Je me suis fait jeter, littéralement, parce que il ne supportait pas le film. Voilà. Il trouvait que Buñuel, en effet, avait noirci le tableau, que c'était insupportable, c'était d'une cruauté inacceptable. Enfin, voilà. C'est
drôle, justement.
Oui.
Ben, pour...
Ah si, j'en ai parlé, là. Je ne suis pas d'accord avec vous. J'ai parlé de malice.
Oui, mais oui. C'est quand même...
On ne peut pas dire que ce soit une comédie à proprement parler. Hein. Non, mais qu'il y ait des choses drôles, mais il y en a tout le temps dans ce film, constamment. Mais ce qui est drôle, précisément, vous avez tout à fait raison. Voilà, écoutez, on peut le dire, peut-être que c'est nous qui rions aujourd'hui, mais je ne suis pas sûr que nous soyons plus forts ou plus mûrs ou plus intelligents que les spectateurs de l'époque. Ça, je ne crois pas. Donc, ce que je constate, si vous voulez, c'est que le film est émaillé de gags. Nous devrions rire, mais nous ne rions pas. Ah oui, j'ai pas entendu énormément de rire dans la salle pendant la séance. Or, on vient d'en sortir de cette séance. Donc, c'est pas ma mémoire qui me joue des tours. Bon, mais moi-même, j'ai ri seul à ma place un certain nombre de fois. Par exemple, quand arrive ce moment absolument incroyable où Buñuel se fiche littéralement du spectateur. Le moment des Anophèles et des Cunex. Excusez-moi, je veux dire, c'est un gag hallucinant. Bon, brusquement, on est en train de décrire le fait que ces Ourdanos, ces malheureux, sont absolument transpercés constamment par la fièvre, la malaria, je ne sais plus quoi. On en voit qui tremblent. Et brusquement, on voit des... on nous dit que les larves de l'un sont... Voilà, bon. Ce petit bloc de science naturelle à l'intérieur du film devrait en effet alerter le spectateur, lui dire attention, il se passe quelque chose d'étrange là. On n'est plus tout à fait dans le schéma, on n'est plus dans la visite guidée, là. On est passé du côté de l'école carrément. Mais voilà, ça ne suffit pas. 1000 petits gags de ce genre émaillent le film. Et quand je dis gags, ce n'est pas forcément non plus des choses comiques, je pense précisément à cette scène de l'école. Qui est incroyable. Qui a ri quand on voit deux enfants, le regard halluciné, et qu'on entend le maître, là en l'occurrence le narrateur, le maître qui dit on apprend à ses enfants que, je sais plus quoi, les deux angles d'un triangle, etc. etc. Bon, évidemment, oui, vous avez raison, c'est un humour destructeur, je suis bien d'accord avec vous. Et la place du spectateur n'est pas tout à fait là. Ou alors, il faudrait imaginer, pourquoi pas, ça serait une utopie formidable, un spectateur qui parviendrait à se libérer du poids des chaînes idéologiques qui, d'une certaine manière, nous emprisonnent tous. Voilà.
Mais est-ce que tu ne crois pas que un des facteurs de rejet, en dehors de l'attachement du spectateur à son âme d'enfant, c'est quand même que l'esthétique de Buñuel s'entrelarde, se renforce de l'esthétique stalinienne, en l'occurrence. Parce que rien qu'en reprenant... Non, mais si tu reprends tous tes mots, bon, il y a le point de vue du maître,
oui.
Alors qu'on a, dans le film précédent, montré à quel point il y avait de la grandeur à ce que celui qui était le maître perd, en quelque sorte, ses privilèges. Il y a compassion n'est pas tout à fait le terme, parce que compassion, souffrir avec, il y a le mépris accablant dans lequel on est inclus, tient ces pauvres arriérés,
bien sûr.
Quand même renvoie aussi au parti communiste éclairé qui doit guider et sans lequel on n'arrivera à rien. La manière dont c'est, pour montrer à quel point ils sont crétins, ils sont aussi crétins que des Africains, ce qui quand même... On voit quand même comment des schèmes de pensée, qui sont les schèmes de pensée de la domination, sont utilisés pour inciter à la révolte, mais avec un regard qui reste celui construit par la domination, avec incestueux, crétin, sous-alimenté, etc. etc.
Alors, ta remarque est très intéressante, parce que, justement, bon, je voulais proposer aux spectateurs une contre-épreuve, en leur passant un film stalinien, précisément, tu vois. Et j'avais pensé à un film qui date de la même année, hein, de Joris Ivens et Henri Storck, qui s'appelle « Misère au Borinage », qui est un film extrêmement célèbre, dans lequel il y a également un grand nombre d'images de la misère, photographiées superbement, faut-il le dire, et dans lequel un commentaire d'un bout à l'autre du film nous parle de lutte des classes. Alors oui, d'accord. Alors pour moi, c'est le contre-exemple absolu. C'est ce que Buñuel ne fait pas. Buñuel, si tu veux, met en place un système qui nous met en présence et nous rend d'une certaine façon complices d'un maître, mais d'un maître qui est le maître haïssable, qui n'est pas le maître aimable. Ce maître qui me dit « ton émotion ne sert à rien », en gros, hein, bah, me méprise, certes, mais ce mépris, c'est le commencement de l'intelligence, là, je dirais. Hein, être méprisé par un maître comme cela, c'est aller à la révolte. Voilà, c'est comme ça que je traduis. Hein.
Je vous passe le micro. On pourrait dire aussi que c'est moins appel à la révolution que l'adhésion au parti pour sortir.
Non, là, je crois que tu tires un peu la couverture, si j'ose dire. Bon.
Moi, je n'irai pas jusqu'à la dernière chose qui vient d'être dite, mais cela dit. Ce qui me frappe beaucoup, et d'ailleurs je vous remercie de votre déconstruction du film parce que c'est la deuxième fois que je le vois, et ça m'a permis de comprendre en grande partie l'espèce d'agacement que j'avais ressenti première fois et la deuxième aussi. Ce qui est très très pénible aussi, c'est le fait qu'il y a la disparition totale du sujet, c'est-à-dire que les individus qu'on voit ne sont absolument pas des sujets, et là où ils pourraient l'être, effectivement, on nous dit que de toute façon, n'espérez pas, ils le sont pas. Et ça, pour moi, ça induit plutôt qu'un appel à la révolte, ça induit plutôt une forme de désespoir et de rejet. Est-ce que vous pouvez poursuivre sur cette idée que vous abordiez là de révolte comme éveil de l'intelligence?
C'est très difficile. De la place où je suis, évidemment, je m'interdis à la fois par difficulté réelle et par principe de parler à la place des spectateurs. Chaque spectateur parle évidemment en son nom propre et c'est très bien ainsi. Donc je ne peux pas parler à la place des autres. À la mienne, ce film me rend enragé.
Voilà. Oui, voilà. C'est vrai, couper les pattes et mettre en colère. Oui,
voilà,
c'est
il me met en colère. Alors, contre Buñuel, contre les Urdanos, contre le monde, contre la vie, contre le gouvernement, contre tout ce que vous voudrez. Contre la République espagnole, par exemple. Et donc, je sors de là avec un sentiment de rage. Bon. Alors, peut-être que la rage n'est pas politique, enfin, elle est politique, mais peut-être qu'elle ne produit pas quelque chose qui s'appellerait adhérer à une organisation, par exemple. Peut-être que ça se passe autrement, j'en sais rien. Pour moi, en tout cas, ça se passe certainement autrement. Mais voilà. Alors, les films, me semble-t-il, qui produisent ce type d'effet chez les spectateurs, sont hyper rares, sont rarissimes. C'est ce que j'appelle, moi, filmer contre le cinéma, filmer contre la logique du cinéma, qui est toujours une logique de remédiation. Il y a toujours la possibilité. Il faut lire André Bazin. Je veux dire, voilà, il faut comprendre comment le cinéma a pu servir au fond de livres majeurs pour les critiques chrétiens. Voilà, Bazin a trouvé dans le cinéma, et il l'a admirablement écrit, une logique qui est celle de la rémission des péchés et de la résurrection. Voilà. Alors, c'est vrai que la logique de la résurrection, c'est la logique du cinéma. Dans ce film, il n'y a pas de résurrection. Voilà. Et non seulement il n'y a pas, mais les quelques moments où la religion apparaît en tant que telle, et c'est le cas dans le film à plusieurs reprises, elle apparaît pour être détruite, je veux le dire. Hein, ces ruines des ermitages, des 18 ermitages dans la vallée, où on nous dit qu'à minuit, chaque anachorète devait sonner une cloche et que le prieur avec la grande cloche leur répondait. Je veux dire, on voit, nous, qu'est-ce qu'on voit à ce moment-là? On voit un champ de ruines, tout ça a disparu. C'était il y a 4 siècles, il n'en reste plus rien. Voilà, il reste, oui, en effet, une grenouille, un crapaud et une vipère, une couleuvre plutôt. Voilà. Donc, je parlais de promesses. La consécution photogrammatique ne peut pas ne pas être porteuse d'un devenir. Il y a toujours un photogramme après l'autre. Et on ne sait pas ce que ce photogramme va amener. Je dis photogramme, mais je peux dire plan, mais je peux dire séquence, mais je peux dire film aussi. Il y a toujours un film après l'autre. Voilà. Alors, cette logique, c'est la logique, effectivement, de la résurrection. C'est-à-dire que vous savez que, une des raisons pour lesquelles le cinéma a été inventé, c'est bien sûr pour lutter contre la mort, bien entendu. Bien sûr que l'image du corps vivant filmé résiste à la mort. C'est ainsi. Le corps est mort, mais l'image est toujours vivante. Pour le dire d'une manière... Je peux voir les hommes préfèrent les blondes. Tout le monde est mort, sauf qu'ils sont tous vivants. Voilà, Marilyn Monroe est vivante, Jane Russell est vivante, le petit gros est vivant. Enfin, ils sont tous vivants. Voilà. Bon. Et donc, c'est ça le cinéma. Il porte ça en lui. Je crois qu'il a été inventé pour ça. Je crois que des centaines de chercheurs se sont obstinés pendant des années, des dizaines d'années, des centaines d'années peut-être, à tenter de reproduire une image de la vie qui survive à la mort, tout simplement. Voilà. Alors, je crois que tout le monde le sait. Hein. Tout le monde est au courant, si j'ose dire. C'est ça que nous, sans avoir besoin de le déclarer, de l'officialiser, de l'actualiser dans notre conscience, c'est ça que nous transportons quand nous allons au cinéma. Je pense que c'est ce désir-là, le désir d'avoir affaire à un monde particulier, un petit monde qui résiste à la mort, voilà, qui survit à la mort. Donc, qui est hanté par l'idée, si j'ose dire, par l'idée de la résurrection, où cette résurrection arrive constamment. Bon, c'est Cocteau qui disait ça. Enfin, bon, voilà, c'est évident. Le personnage meurt tous les jours, 10 fois par jour dans les séances de cinéma, mais à la séance d'après, il a ressuscité. Voilà, c'est des choses aussi simples et aussi bêtes que ça. Je crois que pour penser le cinéma aujourd'hui, il faut le penser avec des outils simples, qui sont ceux de l'expérience anthropologique la plus immédiate. Le cinéma est quelque chose qui vient des grands mythes que l'espèce humaine a concoctés pendant des millénaires. Il est l'aboutissement d'une partie de ses rêves. Le rêve de virtualité, le rêve de réversibilité. Hein. Le personnage ou l'acteur, si vous préférez, sont blessés, voire tués par une rafale de mitraillette, ils se relèvent et ils vont boire un whisky au bar du coin. Voilà. Tout le monde sait ça. C'est ça le cinéma. Et c'est un des points sur lequel il y a une divergence irrémédiable entre fiction et documentaire, parce que dans le documentaire, ça n'est pas possible. Voilà. Si quelqu'un prend une balle dans un documentaire, ça peut arriver dans un film de guerre, il ne se relève pas pour faire une deuxième prise. Voilà. Alors qu'évidemment, dans la fiction, il se relève toujours pour faire une deuxième prise. Voilà. Alors, cette capacité du cinéma à défier la mort, disons les choses comme ça, fait partie de sa puissance. Sa puissance est là. Alors évidemment, construire tout un film sur le fait que la mort est inexorable, qu'elle arrive de toute façon, qu'il faut penser à elle constamment, qu'il n'y a rien à faire, que tout est déjà perdu, c'est toujours trop tard, on arrive trop tard, on s'intéresse trop tard, on découvre trop tard, on rencontre les autres trop tard. Quand on les voit, ils sont déjà condamnés à mort. Écoutez, moi je dis, c'est faire un film contre le cinéma. Et je trouve ce geste d'une grandeur extraordinaire.
À propos de ce que vous avez dit tout à l'heure au sujet de Le plaisir que l'on peut éprouver à ce film, je me souviens de ce que vous avez dit, je me demande si ça ne provient pas aussi du fait qu'il y a un certain sadisme à montrer des images, un certain sadisme à montrer des images de souffrance. Oui. Et je pense à d'autres films de Buñuel avant, antérieur à celui-là, ou surtout postérieur, lors de sa période mexicaine. Je me demande si là, il n'y a pas un plaisir de la part du spectateur à regarder certaines de ces images terribles, comme vous dites, le film est si noir.
Oui, on peut, oui, c'est une lecture possible, monsieur. Enfin, malheureusement, ça n'est pas la mienne, mais je peux accepter que ce soit la vôtre. Au sens où, disons que dans la place du spectateur, que peut occuper tout spectateur réel, la place du spectateur est une sorte de fonction, comme une fonction algébrique. La place du spectateur implique une jouissance de la dérédiction du corps de l'autre. Voilà. Nous sommes là confortablement, entre guillemets, hein, assis dans notre fauteuil, relativement indemnes de corps et d'esprit, relativement, et nous voyons sur l'écran des êtres qui souffrent, qui se perdent, qui s'abîment dans des maux sans fin, ou qui sont éventuellement d'ailleurs aussi torturés, battus, humiliés, etc. Voilà. Et il peut se concevoir, et hélas, ça se rencontre beaucoup, il peut se concevoir une certaine jouissance de ce spectateur à ce spectacle. Bien entendu, je considère que toute l'histoire du cinéma nous instruit contre cette tendance ou ce désir ou cette, voilà, ce lâcher-là. Hein, parce que, évidemment, bon, il faudrait interroger beaucoup d'autres spectateurs, mais pour ce qui me concerne, moi, la souffrance, je peux en jouir au cinéma si elle me donne une leçon. Voilà. Je pense au film de Mizoguchi qui s'appelle Les contes de la lune vague après la pluie. Évidemment, des gens sont humiliés, des gens souffrent, des gens se trompent, courent sur des chemins d'erreur, perdent leur vie littéralement. Et au bout de ça, quelque chose se sauve, qui est la place du spectateur, comme place de la dignité, comme place de la maturité, comme place de la responsabilité. Voilà. Alors, il me semble que, mais on pourrait multiplier les exemples. Alors, évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cinéma est un champ de bataille, chose que nous savons tous, entre des forces contraires, des désirs contraires, des logiques contraires, et souvent des logiques ennemies, hein, radicalement ennemies. Alors, toute cette part du cinéma qui, au fond, avilit les spectateurs, hein, et le pousse à se satisfaire ou à jouir, non seulement du malheur, mais de la destruction, disons, du corps de l'autre, sans en rire, comme savaient faire les burlesques, puisque je crois que là, il y a une grande fracture historique qui s'est produite dans l'histoire du cinéma. Il faudrait un jour faire un cycle sur les burlesques, ce serait extrêmement intéressant, parce que, évidemment, la rage destructrice des burlesques qui s'en prend au monde de la consommation en général, au monde de l'ordre en général, mais qui s'en prend aussi au corps humain en particulier, cette rage destructrice est quelque chose d'extrêmement libérateur. Voilà. On ne peut pas dire la même chose du plaisir que nous pouvons avoir à avoir humilié ou battu un personnage aujourd'hui dans un film par un autre personnage. Voilà. Alors, cette guerre des instincts, des pulsions, des élaborations, c'est ce qui fait l'histoire du cinéma, je suis bien d'accord avec vous, oui. Je le dirais autrement, vous me poussez à le dire autrement, je dirais que du côté de ce que j'appelle le spectacle, alors oui, en effet, la pente est facile, hein, et elle est même directement, elle fonctionne toujours, c'est-à-dire que le spectateur est, induit à se satisfaire de peu et du pire, pour le dire les choses comme je les entends. Pourquoi? Parce que le spectacle, c'est un système évidemment d'accumulation d'effets, hein. Parmi les plus efficaces de ces effets, il y a les effets sur le corps de l'autre, le battre, lui donner des coups de poing, le massacrer, y aller à la hache, etc., etc. Ça fait partie des effets spectaculaires, hein, on ne peut pas dire le contraire. Pourquoi? Parce que c'est visible. Voilà. C'est dans le champ du visible. Le cinéma opère dans le non-visible. Hein. Souvenons-nous des films de Jacques Tourneur, que vous connaissez peut-être, La Féline et beaucoup d'autres. Bon, Tourneur, il se passe des choses horribles dans les films de Tourneur, mais on ne les voit pas. On ne les voit pas, on les imagine, on peut les imaginer, on est induit à les imaginer, poussé à les imaginer, mais on ne les voit pas. Alors, c'est la différence entre cinéma et spectacle. Le cinéma travaille sur des choses qui sont dures ou pénibles ou horribles, mais qu'on ne voit pas. Alors que le spectacle, lui, les met en avant et les met en vitrine, si j'ose dire, et les fait voir énormément. Pour le dire autrement, pour moi, la logique du spectacle est une logique accumulative, hein, où on accumule le visible, et donc d'une certaine façon une logique du plein, et même du trop plein. C'est-à-dire qu'au bout de cette logique, il n'y a plus de hors-champ. Au bout de cette logique, il n'y a plus l'imaginaire du spectateur. Alors que la logique du cinéma, et j'en ai dit un mot tout à l'heure au début, est une logique de la frustration. Parce qu'on ne montre pas tout. Voilà. Le cadre, disait André Bazin, est un cache. Alors, si le cadre est un cache, ça veut dire que ce qui n'est pas montré est aussi important, sinon plus, que ce qui est montré. Et ça veut dire que tout ne se réduit pas au visible. Et que donc une partie, nous le savons tous, hein, le son, ce qui se passe entre des plans dans un montage n'est pas visible. Dans un champ contre champ, le raccord se passe dans la tête du spectateur. Il n'est pas visible sur l'écran. Il est visible dans notre tête. Voilà. Donc une grande partie du cinéma opère à travers des opérateurs qui ne sont pas ceux de la visibilité. Le spectacle opère toujours à travers des opérateurs qui sont ceux de la visibilité. C'est une différence majeure. Elle est très importante aujourd'hui parce qu'elle est politique. On voit bien comment, du côté des médias, du côté des représentations officielles, etc., tout est fait pour accumuler les visibilités. Et d'une certaine manière, ramener le monde, cet ensemble inconnu et mystérieux, le ramener à du visible, c'est-à-dire à du calculable, à du normable, à de l'intelligible. Voilà. Alors que nous savons tous, bien sûr, que ce qui caractérise le monde, c'est qu'une grande partie de ce qu'il peut être nous échappe. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous avons éventuellement encore un espoir. Tout n'est pas joué. Ah, je reprends le micro du monsieur, merci.
Et vous êtes
bon, peut-être allons-nous songer à nous séparer, hein. Bon, écoutez, merci. Vous aviez encore une question? Encore une question.
Excusez-moi. Juste une petite question. Je me demandais quelle était l'origine de ce film, en fait, pour Buñuel. Est-ce que c'était une commande?
Pas du tout. Non, c'est plus compliqué que cela, à vrai dire. Alors, toute l'histoire est admirablement racontée dans le livre de Mercé Ibars, qui s'appelle Tierra Sin Pan, et dont je vous conseille vivement la lecture. On le trouve peut-être en bibliothèque, il est en espagnol. En réalité, c'est une histoire complexe, parce que bien avant Buñuel, les Hourdes avaient déjà attiré l'attention. Par exemple, avant d'être démis de ses fonctions et renvoyé dans son château, le dernier roi d'Espagne, enfin le dernier avant la République, je veux dire, le dernier roi d'Espagne, en 1922, était allé faire une visite aux Hourdes. Visite qui avait été couverte par les médias de l'époque, c'était un événement considérable. Le roi va voir ses sujets, les plus misérables de ses sujets. Un personnage dont je ne sais pas exactement la fonction, qui s'appelle Maurice Legendre, je ne sais pas s'il est ethnologue, anthropologue, sociologue, bref, avait écrit avant le film de Buñuel, avait fait tout un travail d'enquête sur les Hourdes. Élie Lothard, je l'ai dit tout à l'heure à la présentation, avait imaginé de faire une série de photos des Hourdanos. Et puis au dernier moment, il n'a pas pu le faire, il était resté avec ce regret. Donc on voit que le terrain avait été préparé et travaillé, et que quand Buñuel a rencontré Élie Lothard, ils ont peut-être, j'imagine, parlé aussi de ça, et que la naissance du projet est venue à ce moment-là. C'est un film qui a été rendu possible de façon tout à fait étrange, ce qui d'ailleurs dément l'hypothèse stalinienne que tu lançais par le fait que l'argent nécessaire au film n'est pas venu du vicomte de Noailles comme la dernière fois, mais est venu d'un anarchiste espagnol qui s'appelle Ramón Acín, qui est un plasticien, un artiste, un dessinateur, un sculpteur, qui a gagné la loterie. Ça, c'est très Buñuel. Au lieu de mener la grande vie, il a mis l'argent dans le film de Buñuel. C'est formidable, je trouve. C'est génial. Donc voilà, c'est une histoire. Elle existe sous forme écrite, donc je serais pas capable de vous la résumer. Mais enfin, elle est passionnante.
Merci.
Bon, merci à tous et à la prochaine fois.